Je suis Solange Siri. Je souhaite créer, par ce podcast « Maman au-delà de l'inceste », une énergie nouvelle de richesse et de résilience pour redonner espoir aux mamans qui souffrent dans leur solitude. Ne pas regarder ailleurs en se faisant croire que tout cela n'est rien et qu'on peut bien avancer en laissant cela derrière soi et en même temps toucher du doigt ou de l'oreille du cœur que y arriver et transformer, c'est possible. L'amour, la joie, la paix sont possibles pour les mamans qui ont survécu à l'inceste. Se réunir pour informer, inspirer, éveiller, se reconnaître et s'aimer. Dans cet épisode de Maman au-delà de l'inceste, j'ai l'immense joie de recevoir Anna, maman et survivante d'inceste qui a su transformer l'horreur de son passé grâce à son amour pour la musique, devenue arme pacifique de libération de la parole.
Souriant en apparence, robuste, forte et sortant du silence, vive la résilience. Vrai trésor qui nous sort de nos plus sombres croyances. Triste, mais en secret. Fardeau caché, cœur brisé. Peur d'aimer, qui peut rester masqué. Aussi longtemps et dans le tourment, sans y perdre pied.
Anna décrit en détail la violence que lui infligeait son père avant d'insister sur l'importance vitale de la libération de la parole comme moyen d'information, de sensibilisation et d'éveil des consciences. Anna nous confie aussi ses difficultés de jeune maman ayant subi l'inceste, ainsi que ses projections sur ses peurs à venir. Cette artiste humaniste et engagée nous donne un aperçu de l'énergie de résilience collective qu'elle souhaite insuffler à travers ses projets artistiques en 2023. Cet épisode est vraiment très riche. Il contient beaucoup de lumière et des pistes précieuses pour la reconstruction, mais aussi des détails sur la violence subie qui peuvent être difficiles à entendre. N'hésite pas à prendre ton temps pour son écoute, à faire des pauses. Et bien sûr, si quoi que ce soit réveille des choses trop lourdes pour toi, surtout, ne reste pas seule avec cela. Prends bien soin de toi pendant cette écoute. Coucou Anna.
Coucou Solange.
Bienvenue sur le podcast Maman de l'inceste. Je suis vraiment, vraiment heureuse de te retrouver, puisqu'on se connaît déjà toutes les deux.
Tout à fait, moi aussi.
Ouais, merci. On a eu beaucoup de chance de se rencontrer pendant un moment vraiment magique et fou, dont on parlera peut-être. Mais aujourd'hui, sur ce podcast, j'aimerais vraiment que tu nous parles de toi, Anna, qui on peut te trouver sur Instagram en particulier, sous ton profil, il y a indiqué que tu es une artiste. Donc, indiqué beaucoup, beaucoup de choses aussi très intéressantes. Tu viens de sortir ton premier EP il y a quelques mois,
oui, tout à fait, en octobre.
Ça s'appelle Résilience et maintenant, je vais te laisser la parole pour que tu puisses nous parler de toi, comme tu en as envie.
Très bien, déjà, je te remercie beaucoup, Solange, de me laisser cette opportunité, parce que je pense que la parole a besoin de se libérer et comme tu l'as dit, déjà au travers mon premier EP, mais aussi demain dans mes futurs projets, j'ai envie que la parole se libère et pour ce faire, je libère d'abord la mienne pour justement montrer l'exemple. Pourquoi je libère ma parole? Parce que tout simplement, je suis une survivante d'inceste. J'ai connu l'inceste pendant plus de 10 ans, pratiquement 15, par mon père. Donc un contexte familial très violent, en tout cas une violence alors à la fois physique et psychologique. J'insiste sur le psychologique parce que la violence physique, je pense que dans la tête et dans l'esprit de tout le monde, c'est assez visible. Voilà, il y a des bleus, il y a des coups, on la visualise, on la voit hein, au quotidien sur les réseaux sociaux, au cinéma, à la télé. La violence psychologique, elle est beaucoup plus vicieuse parce que finalement elle laisse des séquelles qui sont des traumatismes invisibles et en tout cas pas de prime abord quand on connaît pas les personnes. Après, quand on vit avec les gens, on s'en rend compte parce qu'il y a des défaillances, il y a des manques, on voit qu'il y a du manque affectif, on voit qu'il y a des défaillances à certains endroits de la personnalité des personnes. Et moi, j'en suis consciente, hein, j'en suis consciente, même encore aujourd'hui, je sais que j'ai des manques par rapport à ce que j'ai pu subir. Et c'est un travail quotidien, hein, après, effectivement, thérapeutique, de prendre soin de soi. Donc voilà, contexte familial très compliqué, donc d'inceste avec effectivement, moi, ça a été assez chronologique. Ça a commencé vraiment par des attouchements sur les parties intimes, tant les miennes que lui, les siennes. Donc des attouchements, donc plutôt voilà des attouchements sur les parties intimes avec les mains. Après ça il y a eu une chronologie en fait des actions parce qu'après c'est passé avec la bouche. Et puis après il y a eu des tentatives de pénétration, tant anale, tant vaginale. En fait progressivement, en tout cas maintenant avec le recul que j'en ai, je me rends vraiment compte qu'il y a eu un peu une exploration chronologique du corps humain. En tout cas c'est comme ça que je l'interprète, tant le mien que le sien. Il y avait aussi cette forme de dualité où il n'y avait pas des attouchements passifs. Il n'attendait pas que je sois passive. Il y a aussi ce côté où on m'a demandé d'être active, que ce soit par le fait de me guider dans les gestes, par le fait de se mettre de se placer en tant que modèle. Je te montre ma fille. Il est important que tu saches comment avoir un orgasme. Il est important que tu saches quoi et quoi. Il y a des phrases comme ça qui me restent, hein, de choses dont je me rends compte de la violence a posteriori, parce qu'on ne dit pas à un enfant, encore moins à sa fille, c'est important que tu saches faire jouir un homme, il faut que je te montre, papa est là pour te montrer. Il se posait finalement un petit peu comme professeur, maître de la sexualité, et finalement, il y avait un rapport d'apprentissage qui est hyper malsain, puisque... voilà, apprends-moi ce que je dois apprendre à l'école, apprends-moi des valeurs, apprends-moi plein de choses, mais pas ça. Donc déjà, il y avait ce positionnement qui était complètement en décalage avec ce qu'un vrai papa doit faire. Je pense aussi avec le recul que c'était un papa, qui restait très enfant dans sa tête. Je suis quasiment persuadée qu'il a dû subir enfant aussi des maltraitances. Il s'était confié dans des moments un peu de lucidité et de... peut-être quête aussi, et lui d'affect, enfin, je ne sais pas. En tout cas, il s'était confié sur des choses qu'il avait vécues dans l'enfance. Donc, il a vécu au Maroc, hein, pour info. Après, voilà, aujourd'hui, ça n'exclut en rien sa prise de responsabilité en tant qu'adulte, quand on devient parent. Voilà, il aurait dû, en fait, savoir... Déjà, il aurait dû savoir se prendre en charge, avoir peut-être ce moteur pour, en fait... aller prendre soin de lui, voilà, c'est plein de choses où il n'a pas été capable. En parallèle, c'était quelqu'un qui, moi à mes yeux, je le considère vraiment comme un parasite à tous les égards, parce que ça a été un parasite dans sa relation de couple avec ma mère, dans toutes les relations qu'il a pu mener de manière générale, sa relation avec moi. Mais vous voyez, c'était aussi quelqu'un qui n'avait pas de travail, par exemple, il n'a jamais travaillé. Donc ça, je trouve qu'aujourd'hui, tu vois, avec le recul, ça en dit long, parce que finalement, c'était quelqu'un qui vivait aux dépens, en l'occurrence de ma mère, qui ramenait l'argent au sein du foyer. Et en fait, lui, il profitait de tout. Il était dans une sorte de confort de vie où tout lui tombe du ciel. Bon, tout ça est passé. Moi, j'ai eu un peu un déclic parce que j'ai une petite sœur et en fait... C'est bête, hein, mais on grandit, on devient ado, on comprend de plus en plus que des choses ne se passent pas normalement. En tout cas, ce n'est pas normal ce qui se passe. À 18 ans, je m'en vais de la maison pour faire des études supérieures. Études supérieures d'ailleurs, enfin premières années d'études supérieures d'ailleurs, qui se passent de manière un peu chaotique parce que pour moi, c'est la liberté. Je quitte le foyer familial. Je quitte le foyer familial et en fait, je me rends compte que le monde extérieur, dont on m'a pourtant si souvent protégée, soi-disant, dont on m'a si souvent dit de me méfier, les autres, c'est... Je me rappelle, mon père me disait « méfie-toi des autres ». En gros, les autres, c'est l'ennemi. Ce sont des ennemis, ce sont des gens qui te veulent du mal. Aujourd'hui, j'en rigole parce qu'aujourd'hui, ce sont les autres qui m'ont sauvée. Alors c'est moi qui me suis sauvée, déjà, premièrement, mais les autres m'ont aidée. Et en fait, les autres, finalement, on se rend compte que les autres, les autres, c'est mes amis, c'est mon entourage, c'est des gens à qui j'ai pu parler, des gens qui m'ont comprise et entendue. Et en fait, qui m'ont apporté finalement beaucoup d'amour, d'affection, de solidarité, de soutien, d'entraide, que en fait, j'avais jamais eu avant, puisque dans cette espèce de perversité, dans cette espèce d'emprise familiale, mon père avait réussi à nous cadenasser dans une bulle où finalement les relations sociales extérieures, sans qu'on s'en rende compte, et insigneusement, se sont se sont complètement réduites à la sphère familiale. Quand on est enfant, on se rend pas trop compte parce qu'en fait, on va malgré tout à l'école, on a quand même des copains copines, voilà, on joue à la récréation. Mais je me rappelle aussi qu'une fois au lycée, hein, et ça commençait la manipulation psychologique qui était déjà bien présente. Et je pense que j'en ai plus de souvenirs parce que je l'ai interprété et je me suis rendu compte du problème. Alors que quand on est plus petit, on boit un peu les paroles de nos parents et on n'est pas assez mature pour déjà prendre du recul. On boit un peu les paroles de nos parents parce que c'est la référence et puis parce qu'on nous demande d'être obéissants. Alors moi, j'ai été une petite fille obéissante, très disciplinée, très, voilà, tu dois être la première, tu dois être la meilleure, tu dois tout savoir, tu ne dois montrer aucune défaillance, tu ne dois montrer aucune anomalie, en fait, aucun problème, tu dois être, voilà.
Mes apparences, quoi.
Mais oui, c'est dingue. Ça, c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui a laissé des séquelles dans ma façon d'être parce que ce côté-là un petit peu parfaite, qui est d'ailleurs complètement utopique, hein, parce que encore une fois, c'est un faux problème. En fait, c'est quelque chose qui est resté, hein, c'est stigmatisé. Hein. J'y travaille, c'est beaucoup mieux aujourd'hui que ça ne l'était il y a quelques années. Mais en fait, on ne m'a pas appris à m'accepter entièrement comme je suis, c'est-à-dire avec mes défauts. Et or, c'est hyper important, je trouve, d'expliquer à ces enfants qu'ils sont un. Et en fait, un, ça comprend des qualités et des défauts, et qu'en fait, c'est OK. C'est OK d'avoir des défauts. D'ailleurs, il y a toujours du bon et du mauvais dans chaque chose. Donc, les extrêmes ne sont pas forcément les plus symboliques de réussite ou autre. Donc voilà, il y a eu des gros manques dans l'éducation. Donc oui, je te disais, effectivement, je me rappelle cette pression psychologique dont j'ai plus pris conscience au lycée, où mon père en était venu à me faire promettre, j'en rigole parce que ça me paraît tellement ahurissant, m'en faire promettre que je ne parlerais à personne. Donc il m'avait fait écrire une lettre où je promettais de n'adresser la parole à personne. Au sein de l'école, carrément. Et je pense qu'il devait savoir que c'était pas tenable comme promesse, parce qu'il faut être un peu fou quand même pour en arriver là. Je pense aussi qu'il peut-être commençait à flipper que je grandisse, je peux donc parler, et si je noue des relations qui, à cet âge-là, dépassent la simple camaraderie d'école, parce que quand on est effectivement avec ses copains-copines de comment dire, d'école primaire, c'est on joue à la marelle. Enfin, moi, à mon époque, quoi, on joue à la marelle. Ouais.
On a moins de discussions profondes que quand on grandit.
Voilà, c'est ça. Donc là, c'était plus la corde à sauter. Là, c'est on se pose sur un banc au lycée et puis on parle. Et finalement, c'est là aussi où on expérimente sa sexualité. C'est là que les filles, en général, sont réglées aussi. Donc, on a des discussions qui peuvent tourner autour de ça. On a nos premières amourettes qui, du coup, prennent une dimension aussi un petit peu plus... supérieure par rapport à des bisous de cours de récré primaire. Enfin, on est vraiment dans une approche différente où le corps aussi change et évolue et se sexualise. Donc je pense qu'il devait y avoir une crainte de sa part. En plus, il voyait que moi, j'ai toujours eu en moi cette capacité à parler, à m'exprimer, à malgré tout, en tout cas, essayer d'être rigolote, essayer de mettre l'ambiance, toujours ce côté un petit peu festive, finalement. Qui faisait qu'assez naturellement, j'arrivais à nouer des relations. Et je pense profondément que ça, ça devait le déranger.
Et comment est-ce qu'il t'avait présenté la chose, en fait? Comment il a pu te convaincre de faire une telle chose, d'écrire une lettre et de promettre ça?
Le pire, c'est qu'il n'a même pas eu de mal, tu sais. C'est vrai que ça paraît fou, mais il avait, ça témoigne de l'emprise qu'il avait.
Oui.
Déjà, j'en avais une peur, mais une peur absolue, parce que déjà, il y a eu beaucoup de maltraitance. Maltraitance, voilà, c'est des coups de ceinture, c'est des coups de poing, c'est des coups avec n'importe quel ustensile de cuisine, avec n'importe quel enfin, comment dire, équipement, élément qui pouvait être à sa disposition. Il y a eu beaucoup de douches froides, il y a eu beaucoup de... Voilà, il y a eu des corrections quand même, où bon, tu sors avec des bleus, le nez qui saigne, enfin voilà, c'est des choses, voilà, tirage de cheveux, enfin, c'est des choses qui déjà te laissent des séquelles. On est très très loin de l'image du père protecteur envers sa fille qui... voilà. Donc, je t'avoue déjà que quand les bases comme ça sont posées,
Bien sûr.
Tu es docile, tu te dis que si jamais tu as le malheur de, d'aller à contresens de ces demandes, finalement, en face, tu récoltes... Voilà, enfin. Donc, c'était compliqué de s'opposer à lui. Il arrivait aussi, et encore une fois, hein, c'était plus tard, c'était plutôt, voilà, 16-17 ans, il arrivait aussi à nous faire peur et à jouer sur notre crainte du regard des autres. Je m'explique. Quand on est adolescent, on a envie de plaire, on est aussi dans une quête d'appartenance, on est dans une quête de... On recherche en tout cas des choses vers l'extérieur. Ça fait partie aussi un petit peu de cette étape de sortie du nid de l'enfant. On a besoin de chercher en les autres des points de validation, des points de similitude. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Ça lui a fait peur. Et en fait, il a très bien cerné, c'est très manipulateur, hein, mais mes besoins affectifs que du coup je suis allée chercher à l'extérieur. Et mon besoin aussi de fuir un peu hein, ce foyer familial qui était très toxique. Et en fait, il me mettait la pression en me disant, en faisant du chantage, si tu ne fais pas ça, je vais faire ça. Si tu ne fais pas ce que je te dis, ou si tu ne me promets pas ça... et en fait, à chaque fois, ça marchait, parce que déjà, que j'avais déjà... il n'avait même pas besoin, quelque part, de faire tout ça, parce que j'avais déjà cette peur physique terrible de me prendre un coup, d'être privée de nourriture, d'être privée de... voilà. Donc en fait, on était complètement, je me rends compte, enfin familialement restreint au foyer familial, sous la pression d'un être très pervers, très manipulateur, très dominateur. Et finalement, à la maison, à une femme qui ramène argent, nourriture, enfin tout ce qu'il faut. Et puis finalement. Les enfants qui doivent être sages, dociles, dont il abuse complètement physiquement, sexuellement, psychologiquement. Il se positionnait vraiment comme maître de la maison. Maître, en plus, enfin, on est dans une société très patriarcale. Société très patriarcale qui, en plus, positionne encore aujourd'hui l'homme comme, je sais pas moi, être un peu... j'ai pas envie de dire ça, mais ouais, être supérieur, voilà. Enfin, en tout cas, l'homme doit être fort, l'homme doit cacher ses émotions, l'homme doit gérer, l'homme doit être protecteur de sa famille. Tu vois, ce qui est marrant, c'est que à l'extérieur, c'est ce qu'il montrait. Mmh. À l'extérieur, mon père, tu l'aurais rencontré sans absolument évidemment rien savoir de tout ça. Tu vois quelqu'un qui est drôle, qui te met à l'aise, qui donne l'impression d'être investi à 200% envers ses enfants. Parce que parent d'élève, rien que ça, parent d'élève. Là où à l'inverse, ma mère n'a pas le temps d'être parent d'élève, parce qu'elle travaille, et elle travaille comme deux, parce qu'elle est seule à travailler. J'en ai pas mal parlé avec ma mère, une fois que voilà, j'ai libéré ma parole, j'en ai pas mal parlé avec elle en disant, mais ma mère, je l'aime plus que tout, mais c'est vrai qu'il y a eu une phase assez normale, hein, dans ce parcours un petit peu de résilience, d'incompréhension. Pourquoi n'as-tu pas vu ? Parce que toi, tu étais adulte. Parce que toi, tu aurais dû voir. Donc finalement, une colère, une fois celle envers mon père passé, voilà, qui était la plus grosse parce que c'était vraiment lui l'acteur. Après, dans notre chemin de résilience, hein, moi, je sais que j'ai été un petit peu éveillée par l'aspect maternel, en me disant, mais mon père, ok. J'en ai fait le tour ou quasiment. Je vais traîner des séquelles pendant encore quelques temps. J'y travaille, mais ok. Par contre, maman, elle est où, maman ? Elle a été où, maman ? Très, très compliqué, ça. Pour moi, comme pour elle, d'ailleurs. Parce que elle, en tant que maman, Elle se prend mes aveux donc en pleine face en juin 2013. Et là, c'est la sidération, c'est-à-dire c'est le choc. Qui dit choc dit pendant un petit moment aussi du déni, parce qu'on ne peut pas reconnaître, on ne peut pas se dire, mon Dieu, je n'ai rien vu. Mon Dieu, c'est quand même atroce ce dont me parle ma fille, c'est pas rien. Maintenant, je m'en rends compte, mais toute cette culpabilité qui a dû aussi l'envahir en tant que maman, de ne pas avoir pu, de ne pas avoir vu, de ne pas. Voilà. Ça paraît tellement aberrant qu'on en vient à se demander, même moi, je me suis déjà posé la question, est-ce que c'est pas un grand cauchemar et que je vais me réveiller? Parce que c'est tellement grotesque, ça paraît tellement dingue. Et puis en plus, quand tu n'as pas encore révélé les choses, tu te dis, personne ne me croira parce que ça paraît tellement gros, tellement. Oui, tellement. Waouh! Enfin.
Toi, tu n'as jamais eu d'amnésie traumatique.
Alors, très bonne question aussi. J'ai eu un choc. Quand j'ai révélé mes aveux, pour moi, j'étais très lucide. Parce que très bonne mémoire, quand même, de beaucoup de choses. Quand j'ai porté plainte en juin 2013, j'arrive donc au commissariat, à la brigade des mineurs, avec des souvenirs très clairs et très frais que je peux te raconter dans l'ordre chronologique avec précision, avec certains détails très très précis dans ma tête. Et je viens quelque part armée de ça en me disant, non mais c'est bon, j'ai pris la décision de venir parler, donc maintenant je vais tout donner. Et comme je me rappelle très bien de ce qui m'est passé, ce qui m'est arrivé, je vais être très précise. Et puis en plus, comme je suis quelqu'un à qui on a appris la discipline, la docilité, je vais être vraiment, mais voilà. Donc je viens, aguerrie de toutes ces compétences et de cette volonté surtout de parler, et je déroule. Donc la plainte dure quand même 8 heures, hein. J'ai passé la journée au commissariat, c'est très très long, très éprouvant. J'ai juste eu une pause de 20 minutes pour laisser le commissaire manger, moi j'en étais incapable. J'ai appelé ma mère pendant ces 20 minutes de pause pour lui parler un petit peu de. Voilà, pour laisser retomber un petit peu certaines choses aussi. Une fois que ça a été fait, pendant une année, il y a eu une enquête qui a été menée. Il y a eu une année qui s'est écoulée entre le moment où j'ai porté plainte et le moment où mon père a été arrêté en garde à vue. Donc une année compliquée pour tout le monde parce que ma mère a dû continuer à vivre avec lui et faire comme si de rien n'était, alors qu'elle était parfaitement au courant de ce qui se passait. Donc c'est très dur. C'est très dur parce que, mon chéri, je vais chercher le pain, tu t'en occupes. Enfin, on est sur des schémas de discussions tellement routiniers, des discussions banales. Et en même temps d'une violence extrême, parce que faut bien comprendre que ma mère, elle a dû vivre avec tout ça, en sachant tout ça, avec ma petite sœur
Pendant
qui
un
est
an, oui, c'est ce que
pendant
j'ai
un an.
demandé. Ta petite sœur avait quel âge à cette époque-là?
Elle était petite, pour moi, elle avait 7-8 ans.
Ah ouais.
Donc, t'imagines aussi le stress.
Bien
Alors,
sûr.
bon, je savais que ma mère était au courant maintenant. Donc, ma mère, elle a très bien géré là-dessus. Elle s'est aussi arrangée pour que ma sœur soit le moins souvent à la maison, enfin, seule avec mon père. Voilà, ma mère a revu complètement son agenda de travail aussi. Enfin, voilà, y a eu du coup une refonte un petit peu du planning. Enfin, c'est compliqué, c'est très très
Mais
compliqué.
je n'ose même pas imaginer le stress, sachant que tu as le loup sous ton toit, tu laisses ton enfant, ta brebis, quoi, quelque part. Quelle horreur, quoi, en tant que maman.
Oui, et même pour moi aussi, parce que moi, bon, quelque part, j'étais un peu soulagée de ce poids-là, mais j'avais toujours cette peur pour ma sœur. Puis alors, ma mère, maintenant que je suis maman, enfin, on en parlera après, mais je me dis, mon Dieu. Mon Dieu, tant qu'on est dans le déni, tant qu'on est dans l'ignorance, quelque part, on floute tout ça, on ignore en fait, donc on ne se rend pas compte. Une fois qu'on sait, on se remet aussi à penser à tous les autres petites choses, toutes les autres petites choses qu'on a vues, qui nous paraissaient insignifiantes, mais qui finalement remises dans leur contexte aujourd'hui, nous paraissent, en tout cas, sèment le doute, sèment la peur. Et là, c'est plus la peur, là, c'est la terreur, parce qu'abuser d'un enfant, c'est terrifiant.
Oui, mais j'imagine même comment tu dors la nuit. Enfin, comment tu peux dormir alors que ton enfant est dans sa chambre au milieu de la nuit, il peut arriver n'importe quoi.
Tout à
C'est
fait.
terrible quand tu sais ça. Maintenant que tu sais vraiment que tu peux plus faire semblant ou tu peux plus regarder ailleurs, quoi, c'est plus
Oui.
possible.
Ça a été dur pour ma mère, justement, parce qu'elle a été dans ce schéma où elle a dû faire comme d'habitude. Et psychologiquement, je pense que ça n'a pas aidé parce qu'elle a dû rester dans une forme de déni protecteur pour pouvoir continuer à faire comme si de rien. Et en même temps, voilà, enfin, bon. Je me rappelle plus quelle était ta question de base. Tu m'as
C'était l'amnésie
dit
traumatique.
l'amnésie traumatique, voilà. Et donc, en fait, quand j'ai porté plainte, par la suite, il y a eu donc une enquête avec l'interrogatoire de plein de personnes que je connais. Et comme en plus, notre histoire est sur une très, très longue période, finalement, mes camarades d'école, mes professeurs, mes professeurs d'école, etc., ont été interrogés. Donc, on a beaucoup déménagé en plus. Donc, si tu veux, ça fait beaucoup d'interrogatoires, tout ça. Et c'est lors des interrogatoires que, là, je me rends compte que il y a notamment un truc que j'ai complètement occulté de ma mémoire et que je me prends en pleine face à la lecture, ou en tout cas à l'écoute des interrogatoires, parce que je réalise que, apparemment, je suis allée au Maroc avec mon père à 16 ans, enfin 15-16 ans, quand même un âge où je veux dire, je suis censée me rappeler. Je n'ai pas 4 ans, je n'ai pas 5 ans, c'est quelque chose d'assez récent. J'ai 22-23 ans quand je porte plainte, donc, enfin. Encore une fois, je suis capable de me rappeler de choses qui se sont passées quand j'en avais 5. Donc, et puis un voyage, ça veut dire soit prendre l'avion, soit prendre la voiture pendant de longues heures. Donc, eh ben ça, en tout cas, au moment où on en parle, je suis droite et déterminée. Je dis non, 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 ça c'était pas. Non, non, je suis allée au Maroc après avec vous. Non, 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 je me rappelais d'un autre voyage. Je dis mais là, non, non, non. Et puis vraiment, vraiment sûre de moi. Enfin, c'est-à-dire que je n'ai même pas laissé transparaître le doute. Non, 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 là, bah, c'est pas possible, j'étais pas là. Voilà. Et en fait, en face de moi, ma mère sait très bien quand est-ce que j'étais à la maison ou pas, et puis bon, d'autres personnes aussi. Et je me rends compte petit à petit, que je peux pas nier l'évidence. J'ai été au Maroc à ce moment-là, avec mon père, seule avec lui. Plus je me rends compte que j'ai une amnésie sur cette partie-là de ma vie, là, 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 ça fait flipper. Là, ça fait friper parce qu'on se dit, mon Dieu, déjà, tout ce dont je me rappelle, c'est à vomir. Alors, ce dont je ne me rappelle pas, ça veut dire que mon cerveau, finalement, préfère faire blackout total de cette partie-là pour me protéger. Donc là, on en est conscient et en même temps, on se dit, punaise, qu'est-ce qui a bien pu se passer de si terrible, enfin, en tout cas, de plus terrible, parce qu'en fait, moi, je me disais déjà ce que j'ai vécu, ce dont je me souviens, c'est déjà extrêmement violent. Après, je cherche pas à m'en souvenir. Honnêtement,
Ça te perturbe pas dans ton quotidien, dans ta vie de tous les
Non.
jours?
Non, non, non. Parce qu'en fait, il y a déjà eu tellement de choses. C'est long, hein, c'est long, un inceste sur tant d'années. L'inceste déjà en lui-même, déjà rien qu'un acte, un seul acte.
Bien sûr.
N'importe quoi, à quelqu'un qui a 10 ans, il est touché une fois. Déjà ça, c'est destructeur au possible. Là, il y a eu beaucoup de choses. Là, il y a eu l'inceste pendant beaucoup d'années, avec, comme je te le disais, une surenchère à chaque fois, hein. C'est-à-dire vraiment une augmentation. Il est allé plus loin à chaque fois. Et puis en fait, tout ça n'est pas normal. Tu sais, petite anecdote, j'ai appris la signification du mot viol à 13-14 ans uniquement. Et j'étais en tout cas en cours de récréation, copain-copine rigole, en disant machine s'est fait violer. Mais je vois qu'il rigole. Alors pour moi, de base, de prime abord, rien de grave. Je veux dire, pas de sujet tabou. Et puis, moi, je comprends pas. En fait, pourquoi il rigole? Qu'est-ce qui est drôle? Moi, je comprenais plus voler. Elle s'est fait voler. Mais du coup, s'est faite violer. Je comprends pas. Et du coup, j'ose, un peu ridiculement, dire, mais ça veut dire quoi, violer? Mais avec toute la gêne que peut avoir un enfant qui se sent complètement exclu d'une grosse marade, visiblement, entre copains. Et là, tout le monde se fout de ma tronche, tout le monde se fout de ma gueule pour dire oh là là, elle sait pas ce que ça veut dire violer et tout, non mais la honte et tout. Et il y en a une qui a dû avoir un peu pitié de moi qui me dit bah violer, c'est quand tu fais l'amour à quelqu'un alors qu'il n'en a pas envie. Enfin, elle commence à m'expliquer de manière très simple et enfantine finalement la chose. Et là, ouf, oula, mais ce que tu es en train de m'expliquer, c'est ce que je vis depuis des années. Et donc tu es en train de me dire que ça a un nom et qu'en plus c'est illégal. Ah, d'accord. Ok. Non, mais là, déjà, gros, gros choc. Gros, gros choc. Et en plus, c'est mon père. Enfin, c'est même pas mon père, c'est papa. À cette époque-là, c'est papa. Donc, tu vois, c'est des électrochocs de prise de conscience et de mettre un mot sur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis convaincue que plus on fait de la prévention, plus la parole pourra se libérer plus vite, plus tôt. Quand on voit qu'on est encore tenu par des délais de prescription qui, à mon sens, sont en incohérence totale en fait avec le process et le cheminement de résilience de tout et chacun, je pense que moi, en tout cas, je peux parler de mon vécu, tu vois, ces petites informations comme ça ont créé finalement des prises de conscience qui ont fait que je me suis plus rapidement rendu compte que ce n'était pas normal. Parce que quand on est petit, on se rend compte que ce n'est pas normal, mais ça reste papa, ou dans d'autres circonstances, tonton, papy, je ne sais quoi. Ce qui fait que finalement, et c'est là toute la violence de l'inceste, c'est qu'en fait, ce sont des personnes en qui tu es censé avoir confiance et qui s'érigent en tant que protecteur, qui commettent ces violences. Et comme c'est fait dans ce contexte-là et dans une sphère familiale très protectrice qui souvent couvre un petit peu le silence, parce qu'il y a des familles dans lesquelles l'inceste est connu mais est tue, et bien pour la victime, ça bloque complètement la prise de parole, ça bloque complètement cette possibilité de demander de l'aide, de s'exprimer, de... Ouais. Ouais, de dénoncer en fait, de dénoncer l'agresseur aussi, parce que notre agresseur, on l'aime en fait, et c'est là toute la...
Oui, c'est le principe de cette emprise.
C'est ça.
Ouais.
Donc voilà, je suis convaincue aujourd'hui que qu'en expliquant peut-être plus les choses aux enfants, qu'en en parlant aussi de manière plus ouverte, moins tabou, finalement, on arrivera à lever les rideaux déjà sociétalement sur ce fléau qu'est l'inceste, et aussi... Les victimes, une fois que ça leur arrive, parce que malheureusement, on ne va pas éradiquer l'inceste de notre vie, enfin de notre société tout de suite, au moins, je me dis qu'elles pourront peut-être plus facilement parler et voilà, lever un peu le voile sur ce fléau.
Tu as complètement raison, parce que c'est impossible de parler, déjà si tu n'as pas conscience, comme tu disais toi dans ton histoire, moi c'était exactement la même chose, je me vois encore marcher dans les rues en me disant... Quand j'ai commencé à prendre conscience qu'il y avait quelque chose qui clochait, mais il a fallu que je grandisse pour ça, parce que au départ, pour moi, donc plusieurs années, c'était juste ce qui se fait normalement entre père et fille, que je pensais que ma mère elle faisait la même chose avec mes frères, parce que c'était comme ça que ça se faisait, ce qui n'est pas du tout le cas, heureusement pour eux, heureusement pour elles, mais pour moi, c'était une normalité. Et c'est vrai que, comme tu dis, le mot viol, toi, tu l'as appris sur le tas, enfin, assez grande. Dernièrement, on a fait ensemble une interview avec Thibaut InShape. Et suite à ça, j'ai un de mes neveux qui m'a expliqué que, enfin, c'est pas lui, mais ses parents m'ont expliqué qu'ils ne connaissaient pas le mot inceste. Parce qu'il a découvert en voyant voyant que je parlais de cela, en fait.
Comme
et,
quoi.
Et le, alors qu'il a 16 ans, enfin, il vient d'avoir 17 ans. Donc, oui. Il vient de découvrir le mot inceste. Et ce n'est pas pour jeter la pierre à qui que ce soit, c'est parce que c'est tellement caché. Si tu ne connais pas les mots, tu ne peux pas prendre conscience du mal, donc tu ne peux pas en parler, tu ne peux pas t'en libérer, tu ne peux pas le dénoncer, comme tu dis. C'est terrible. Et dans le cadre de ce podcast, j'ai interviewé une jeune femme qui s'appelle Virginie Perret aussi, qui est auteure de La Barque Noire, un livre, et entre autres choses. Et elle fait des conférences maintenant pour être aussi dans la prévention, la formation des professionnels, et elle explique que quand elle va dans les écoles, elles écrivent sur le tableau inceste, viol, parce que c'est des mots qui doivent marquer, pas pour traumatiser les enfants, mais pour qu'ils puissent nommer les choses, savoir que ça existe, que ça, c'est illégal, que ça ne doit pas se faire. Mais s'ils ne connaissent pas le mot, encore une fois, ils ne peuvent pas prendre conscience de tout ça. C'est vraiment important, comme ce que tu dis, libérer la parole pour pouvoir vraiment mettre les choses au clair, quoi.
Oui.
Parce que finalement, comme on dit beaucoup, le tabou de l'inceste, c'est normalement qu'il doit être interdit, l'acte doit être interdit, mais c'est même pas ça aujourd'hui, c'est d'en parler, on ne doit pas en parler, ça se fait, mais on ne doit pas en parler. C'est ça le tabou, en fait, aujourd'hui.
Oui, oui. Oui, parce que ça dérange trop.
Ouais.
Ça dérange trop, et dans la tête de tout le monde, c'est inconcevable. Donc, imaginez des scènes d'actes sexuels... dans une sphère familiale aujourd'hui érigée dans notre société comme étant la protection absolue, ben voilà, la protection de ses enfants, de nos enfants, ça paraît tellement une évidence, ça paraît tellement évident que d'imaginer finalement corrompre cette image, d'imaginer bafouer finalement l'innocence d'un enfant, c'est vrai que c'est dur à encaisser, à accepter. Il y a même des fois des schémas familiaux où, par exemple, l'oncle va abuser de sa nièce et la sœur, enfin du coup la maman de la fille, voilà, va tellement être choquée que des fois, en fait, elle est prise un peu au dépourvu. Qui dois-je croire, mon enfant ou mon frère, par exemple? C'est pour prendre un exemple vraiment, c'est terrible parce qu'effectivement, on montre bien à quel point l'enjeu familial est là, de solidarité, parce que en fait... La protection de nos enfants devrait être la priorité absolue. Aujourd'hui, on préfère croire qu'un enfant ment, plutôt qu'un adulte. Or, si on s'intéresse au sujet, mais un quart d'heure, ça demande pas grand effort. On se rend bien compte qu'un enfant, la notion de mensonge sur ces sujets-là, pour eux, elle est tout à fait abstraite. C'est-à-dire qu'un enfant, finalement, quand il parle, il raconte, il décrit ce qu'il a vécu. Il n'est pas dans un imaginaire, comme on pourrait le croire. En fait, c'est ça aussi qui est pénible et un peu distordu dans notre société, c'est qu'on préfère croire un adulte qui est justement capable de mensonges, de manipulations, de voilà, plutôt qu'un enfant qui finalement, lui, décrit des choses en plus souvent avec ses paroles, mais avec sa compréhension du geste ou de l'acte, comme un enfant peut le comprendre, c'est-à-dire sans aucune sexualisation ni érotisation, puisque lui ne comprend même pas, il ne connaît pas, il ne sait pas. Donc aujourd'hui, oui, la société, elle essaie d'un peu de fermer les yeux sur ces choses-là et c'est triste. Je pense que pour résoudre le problème, de toute façon, le problème de l'inceste est tellement énorme que c'est un problème qu'il faut prendre sous plusieurs axes, avec vraiment plusieurs parties, que ce soit judiciaire, que ce soit voilà, au moment du recueil de la plainte, au moment du traitement du dossier, au moment des interrogatoires, au moment des procès, etc. L'accompagnement des victimes, que ce soit tant thérapeutique que judiciaire, accompagnement médical ou thérapeutique, enfin, là, pareil, il y a des grosses lacunes. Libération de la parole, mettre vraiment à disposition des personnes et de la société de manière évidente les numéros à appeler en cas d'urgence. Pour moi, tu vois, le 119, c'est un numéro à savoir en cas d'urgence, comme le 15, le 18. Voilà, c'est la base. Le 39-19, c'est pareil. Enfin, ça doit faire partie des choses presque qu'on apprend à l'école aussi. Les professeurs ont un rôle aussi à jouer. Je suis sûre qu'à l'école, en tout cas dans les lieux éducatifs, il doit y avoir aussi de la prévention qui doit être réalisée. La prise en charge, hein, on en parlait ensemble lors de notre débrief de l'interview avec Thibault. La prise en charge aussi de tous ces pervers, de toutes ces personnes qui
Bien sûr.
finalement ont une attirance envers les enfants ou tu vois, dans le cadre de l'inceste, je me renseigne de plus en plus parce que moi je me suis posé des questions. Je me dis, mais pourquoi mon père m'a fait ça? Pourquoi? Je pense qu'à un moment on a besoin de réponses. En tout cas, moi j'en ai eu besoin. Et en fait, je me rends vraiment compte que, et c'est dur aussi d'accepter tout ça, que en fait, mon père ne m'aimait pas, que mon père était vraiment dans un rapport de domination. Mon père avait tellement de lacunes personnelles qu'il avait ce besoin d'écraser les autres pour se sentir exister. C'est un peu le but aussi du parasite, hein. Il ne peut pas vivre sans les autres, mais pour autant, il traite les autres comme. Voilà, enfin, ça, c'est dur à accepter parce que dans le fondement d'un enfant, finalement, la reconnaissance des parents. Fait partie en fait du schéma de construction, on va dire élémentaire. Et du coup, je pense qu'enfant, j'aurais pas été capable de recueillir et de recevoir toute cette information qui est trop violente. Par contre, aujourd'hui, en tant qu'adulte, stabilité dans ma vie professionnelle, amoureuse, familiale, sociétale, etc. Finalement, comme j'ai appris à me détacher de tout ça. Finalement, me rendre compte aujourd'hui que j'ai eu un père effectivement très barbare, très cruel, très égocentrique, très narcissique, dominateur et n'ayant malheureusement pour lui aucune once d'amour à donner. Et en fait, aujourd'hui, finalement, je m'en fiche, mais en fait, j'ai appris à vivre comme ça. Donc, et maintenant, je suis OK avec ça. Et surtout, j'ai plus d'attente comme on pourrait l'avoir enfant
Et oui.
envers lui. Donc, en fait. Et puis bon, il est décédé, mon père, hein. Il est décédé en 2017. Donc il n'y a pas eu de procès. Il n'y a pas eu de procès à proprement parler. Quand bien même il a fait 2 ans de prison, enfin, en tout cas 2 ans de détention provisoire, parce que il faut croire que le dossier était, malgré tout, malgré une époque où il n'existe pas possibilité de prouver par, je ne sais pas, webcam, caméra, téléphone, voilà, quoi que ce soit. Il y avait quand même chez mon père une forme, ouais, de perversité, en tout cas d'égocentrisme absolu. Et c'était très marrant d'ailleurs ça, parce que quand on porte plainte, finalement, l'interrogatoire de chacune des personnes interrogées a permis de mettre en relief un portrait assez global. Or, mon père, dans ses relations, aimait bien scinder les choses. C'est-à-dire que il était capable d'avoir plusieurs visages et d'avoir, en tant que parent d'élève, un certain visage. D'avoir au sein de la famille un autre visage. Alors, on ne change jamais profondément qui on est, et ce qui ressort de manière commune, quand même, ce sont les mêmes choses, mais dans l'attitude, auprès de ses potes, il allait toujours montrer plus qu'il adore ses enfants, qu'on se marre, que c'est trop cool, que c'est un papa poule adorable, que voilà, parce que c'était à son sens ce qui était le plus pertinent de montrer à ces personnes-là. Dès lors qu'on était dans le cercle familial, il aimait bien s'ériger en tant que père éducateur qui, ah bah non, non, mais moi de toute façon, je travaille pas parce que je reste à la maison, parce que limite à se positionner, tu sais, en tant que comme homme féministe, c'est-à-dire, bah de toute façon, on dit femme à la maison, mais on peut très bien avoir papa à la maison, et moi, heureusement que je suis là, hein, j'élève mes enfants, non, mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Il était capable, tu vois, de complètement renverser la vapeur et de changer de visage en fonction des gens qu'il avait en face de lui. Moi, j'ai appris plein de choses que j'ignorais. J'ai appris que j'avais des demi-frères et des demi-sœurs. J'ai appris que mon père avait déjà été marié avant. J'ai appris. En fait, j'ai appris que c'était vraiment un connard, mais de A à Z. Enfin, il n'y avait rien qui allait, quoi. Et qu'en fait, il a fait du mal à tout le monde. Donc, si tu veux, moi, après, voilà, j'ai dû faire face aussi au recueil de tous les témoignages hors enquête. Hein. Là, je te parle vraiment des témoignages qui m'ont été faits. Parce que quand j'ai parlé, finalement, mon entourage aussi s'est un peu lâché sur le. Oh, c'est horrible ce qui t'arrive, etc. Mais. Tu sais, voilà, je l'ai jamais senti, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ah, puis tu sais, il avait dit ça une fois, j'avais trouvé ça, mais pas possible. Ah, puis bah, ce jour-là, je l'ai viré de ma maison. Enfin, voilà, c'est quand même des choses importantes où je me rends compte avec mon regard d'adulte. Mais en tout cas, ma parole, tu vois, n'a pas été remise en question. Et ça, j'en remercierai jamais assez ma famille, parce que, ni même mes amis, hein. Mes amis que je m'étais pourtant donné tellement de mal à chérir et être capable aussi d'avoir près de moi, parce que j'ai eu une phase un peu de rejet de l'amour amicalement dans un premier temps, et puis après amoureusement, où je ne concevais pas qu'on puisse m'aimer ou m'apprécier. Pourquoi est-ce que tu m'aimes bien? Pourquoi tu m'apprécies? Pourquoi est-ce que tu perds ton temps avec moi? Je ne suis pas quelqu'un d'intéressant ni d'agréable. C'est ce qu'on m'a tellement toujours dit que j'ai du mal à le croire. Donc j'avais du mal à comprendre ça. Mais tu vois, c'est beau parce que mon père m'a toujours dit méfie-toi des autres en mettant encore la famille comme étant la bulle de sécurité suprême. Au final, moi, j'ai trouvé ma clé de salut
À l'extérieur.
à l'extérieur. Mais oui.
Non, mais c'est vraiment typique des familles dysfonctionnelles aussi. Hein, enfin, dysfonctionnel, c'est un petit mot hein, par rapport à la description qu'on pourrait faire de ta famille, de la cellule familiale à l'époque que tu avais avec ton papa et ta maman, elle a fait ce qu'elle a pu. Mais c'est le principe de vraiment mettre enfermé dans un vase clos et surtout, bah oui, effectivement, méfie-toi de l'extérieur ou même si c'est pas dit, de toute façon. Moi, je me souviens que j'avais rarement des petits copains, des copains, des copines à la maison et aller chez les eux aussi, c'était particulier. Alors, c'était peut-être pas, je ne sais pas hein, si c'était consciemment prévu, créé pour que justement je ne sois pas dans la tentation de parler ou de me rendre compte aussi que ça ne se passait pas comme ça chez les autres. En tout cas, c'était comme ça. On avait, et maintenant, je me rends compte. À quel point, maintenant, en tant que maman aussi, à quel point c'est. Et c'est difficile quand même pour moi, en tant que maman qui a vécu l'inceste, hein, c'est normal que tes enfants aillent voir des copains, invitent des copains à la maison, tout ça. Pourtant, c'est pas si facile pour moi.
Mais oui, ah mais je le comprends. Et tu vois, c'est marrant, quand on dit l'inceste se transmet, j'étais persuadée, moi, personne sûre d'elle et assurée que mais ça va pas la tête, moi jamais je reproduirai l'inceste sur ma fille, puisque j'ai une fille, puisqu'en fait jamais je ne commettrai cette horreur, je l'ai moi-même vécue, j'en connais les séquelles, et puis en plus je n'ai aucun besoin de le faire, enfin il n'y a rien qui me... Voilà. Mais en fait, je me suis rendu compte que l'inceste se transmet bah, finalement. Alors peut-être qu'il y a effectivement, on se rend compte, hein, des études, pardon, montrent que l'inceste, quand il est fait par des femmes, quasiment à 100%, on retrouve des traces malheureusement d'inceste dans leur histoire et dans leur voilà, elles auraient en tout cas subi l'inceste plus jeune. En tout cas, moi, ce que je tire plutôt en conclusion pour ma part sur l'inceste se transmet, j'étais persuadée que c'était une transmission physique de finalement retranscription, de voilà, réédition finalement de ce qu'on a vécu.
Tu veux dire qu'on reproduit, est-ce que j'imagine, c'est tu reproduis ce que tu as subi
Exactement. En
tes
fait, moi,
propres enfants.
j'étais persuadée que ça voulait dire ça. Et bon, oui, c'est une explication plausible, hein, j'avais pas de
Ça
souci.
existe aussi.
Ça existe aussi, voilà. Mais c'était quand même une explication qui, moi, profondément, me chagrinait beaucoup parce que, bah, tu sais, ce côté un petit peu révolte, ce côté un petit peu, mais ça va pas, enfin, c'est pas parce que j'ai connu l'inceste que je vais le reproduire. Et quelque part, j'ai presque envie de montrer que, mais c'est hors de question, enfin, genre, non, je suis l'opposé de tout ça et je veux montrer que moi, Je n'ai rien à voir avec tout ça. Je l'ai subi, mais je ne veux pas montrer que je suis quelqu'un de violent. Je ne veux pas montrer que... Enfin, je ne suis rien. Je n'ai rien de tout ça, en fait. Ce qui est marrant, c'est que je me suis rendu compte que ça pouvait aussi vouloir dire l'inverse. C'est-à-dire que l'inceste se transmet par le silence. Et ce qui est très marrant, et c'est pour ça que je rebondis sur ce que tu dis, c'est que on pourrait avoir tendance, toutes les deux, en tant que maman, à surprotéger nos enfants. Mais ce qui est normal, vu ce qu'on a vécu, vu ce qu'on a... Enfin, de les garder près de nous, nos petits loulous, de se dire, mais en fait, on ne veut pas qu'il leur arrive des choses similaires.
Être dans l'hypervigilance, etc. etc.
Voilà. Sauf qu'en fait, en faisant ça, déjà d'une, on ne leur apprend pas l'autonomie, on ne leur apprend pas à gagner leur indépendance, on ne leur apprend pas à justement se confronter un petit peu aux difficultés du monde et à finalement réussir à puiser en eux la force et les ressources pour justement être plus aguerris, en fait, pour tout ce qui va arriver, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille.
Oui, c'est le problème de la surprotection.
Voilà, exactement. Et le fait, et ça c'est hyper important, de ne pas en parler, parce que quand on dit l'inceste se transmet, pour moi, c'est notamment par le fait de ne pas en parler. Encore une anecdote, j'ai appris au cours de toutes ces... tout ce, voilà, tout ce roman, enfin, toute cette aventure familiale que ma grand-mère maternelle, donc tu vois, à côté de ma mère, donc rien à voir avec mon papa, qu'elle a connu l'inceste par son géniteur. Et c'est marrant parce que du coup, je fais un petit peu aujourd'hui avec le recul la translation sur le fait que bah, son père l'a agressée sexuellement. Elle s'en est remise comme elle a pu. Mais dans une époque, alors elle, encore plus ancienne, hein, ma grand-mère, elle a plus de 80 ans aujourd'hui, on était début, fin d'un siècle, voilà. Elle n'a rien dit. Elle a, voilà, bon, elle a eu ses enfants, qu'elle a protégés d'une certaine façon. Ma mère, c'est la dernière, la petite dernière, voilà. Elle aussi protégée, elle aussi, voilà. Finalement, en situation peut-être un petit peu, donc une femme brillante, une femme qui fait des études, ce qui n'est jamais arrivé enfin, voilà, dans la famille. Mais en fait, finalement, affectivement, peut-être un petit peu en manque de, peut-être un petit peu en besoin de voir vers l'extérieur. Et finalement, je pense que au-delà de sa personnalité un petit peu introvertie, de son caractère, il y avait ce manque finalement de connaissances et de maîtrise sociale qui ont fait que, malheureusement pour elle, le premier loup qui s'est présenté et qui en plus s'avère être mon père, mais en tout cas du regard extérieur, ce que je me dis, c'est que bah, peut-être que si ma grand-mère avait été capable, mais c'est encore une fois, je ne jette pas la faute sur elle, hein, elle reste la victime. Elle n'a pas été non plus dans un contexte environnemental, sociétal, permettant d'en parler, de se sentir rassurée sur le fait d'en parler. Mais peut-être que si c'était pas tabou à cette époque, peut-être que si, voilà, elle en aurait peut-être parlé, peut-être que ses enfants auraient été plus sensibles sur le sujet, sensibilisés en tout cas sur le sujet, et que ma mère aurait peut-être été plus en vigilance. Alors, je dis pas que c'est ça qui aurait concouru à des circonstances qui auraient absolument permis d'éviter ce drame. Mais ma mère fait partie de ces gens pour qui l'inceste était quelque chose qui ne la concernerait jamais. C'est quelque chose de dérangeant, auquel elle n'a pas envie de penser. Le sexe en général aussi. Hein. On est quand même sur des familles où la chrétienté, le catholicisme a été très fortement ancré. Et donc, parler de tout ça, c'est pas... Ouais. Voilà. Enfin,
et c'est comme ça que ça se transmet, en effet.
Et c'est comme ça que ça se transmet. Ouais. Donc aujourd'hui, artistiquement, je suis pleinement engagée sur la lutte contre l'inceste et les violences faites aux femmes, parce que ce sont des causes qui me tiennent à cœur. Et dans cette lutte et dans ce combat que je mène, pour moi, la libération de la parole est ma motivation première, et en tout cas la première chose que je vise dans mes témoignages et dans les actions que je mène, parce que je suis convaincue que en détabouisant, en parlant le plus possible, on va permettre de lever le voile sur ce fléau et que des gens se reconnaissent dans ce qu'on dit. Et que des gens, comme tu le disais tout à l'heure si bien, puissent se rendre compte, voilà, la prise de conscience, sortir déjà de ce déni, parce qu'il y a cette phase de déni, parce qu'on n'a pas envie d'y croire, parce que nous aussi, individuellement, on ne peut pas... C'est dur d'admettre. C'est dur d'admettre que ce qu'on vit, c'est grave, que ce n'est pas normal, que papa, tonton, papy, mon frère, n'importe qui, enfin voilà, me fasse autant de mal. Et je pense que, tu sais, des fois, même pas forcément que sur l'inceste, mais des fois, tu sais, on fait des choses, et puis quand on se rend compte que ça a un nom, tu sais, des tocs, des petites phobies, des petites choses, tu sais, c'est comme si demain t'as une phobie qui te paraît un peu con, et en fait demain tu te rends compte qu'elle existe, qu'elle a un nom, et qu'en fait t'es pas seule. Bah du coup, tu te sens beaucoup plus libre d'en
Ouais.
parler et puis quelque part d'aller finalement peut-être t'adresser à un médecin ou un psy pour dire oh, j'ai vraiment ce problème-là, j'ai n'importe quoi, j'ai la phobie des carafes d'eau, enfin, je dis n'importe quoi. Le truc qui te paraît mais complètement en con, tu dis non, mais vraiment, je dois vraiment avoir un problème parce que quand même, qui a peur des carafes d'eau? Et en fait, tu te rends compte, et c'est pour ça que
Pas
les réseaux
seul.
sociaux, oui, voilà, que t'es pas seule, et c'est pour ça que les réseaux sociaux sont un bel outil et je préfère en voir le côté positif que de m'acharner à cibler le négatif. C'est qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est quand même là que la jeunesse se trouve. Qui dit la jeunesse dit demain. Donc, en fait, c'est là qu'il faut être percutant, c'est là qu'il faut savoir à qui s'adresser, c'est là qu'il faut adresser les bons messages et montrer que je te crois, tu n'es pas seule et on va y arriver ensemble. Et déjà, quand tu prends conscience, tu as fait 90% du boulot. Parce que c'est vrai, ça, la prise de conscience, c'est le début de tout le reste. Alors, je dis pas que ce qui arrive va être facile, mais en fait, tu as déjà fait un pas monstrueux pour toi-même et ceux que tu aimes, du coup.
Ouais, c'est ce qui te permet de demander de l'aide justement quand
Oui.
tout ça arrive, quand tu as pris conscience, et donc du coup avancer sur ton chemin pour te libérer vraiment, quoi.
Oui.
Sinon, on a besoin que de plus en plus de canaux, de différentes manières, une diversité, la musique, les prises de parole en politique, comme peuvent le faire d'autres personnes, des militants, ça c'est important. Mais effectivement, avec différents supports, et la musique, elle est vecteur universel, donc c'est essentiel. Tu veux nous en parler un petit peu de comment tu transformes justement toute ton histoire aujourd'hui?
En fait, c'est vrai que la musique, ça a toujours été quelque chose que je pense, enfin quelque chose que j'ai porté en moi. C'est marrant parce qu'en plus, cet attrait pour la musique me vient de mon père, qui lui-même était chanteur et guitariste pour le plaisir. Et c'est marrant parce que il m'a détruit et en même temps, sans le savoir, il m'a donné la clé pour m'en sortir. Et c'est, j'aime à penser en tout cas à ça. Quand bien même, c'est ma mère qui m'a initiée à mes premières leçons de piano. J'ai toujours aimé chanter, jouer. Danser. J'ai toujours eu un attrait en fait pour cette forme artistique. Assez jeune, je me suis mise un petit peu à composer des petites mélodies. Je pense que je m'en servais un peu comme défouloir, mais pas défouloir dans le sens défouloir violent, hein. Défouloir, c'est qu'il y a une dimension un petit peu de force dans ce mot. Là, moi, c'était plutôt peut-être de la détente aussi, de la relaxation. Un exutoire, c'est-à-dire ce besoin de transmettre, soit par la parole ou la mélodie. Ça a d'abord été la mélodie, parce que je t'avoue que les paroles, quand on a 8 ans, bon, c'est très, très, très primaire. J'avais pas du tout une fibre d'écriture travaillée ou autre, mais on s'en fiche. L'idée, c'était de me servir de ma voix et de mes doigts sur le piano pour libérer quelque chose.
Et excuse-moi Anna, mais je dirais que peut-être aussi, alors ça t'apaisait, ça te relaxait et ça te permettait de te retrouver vraiment toi-même en fait, toute l'essence magique qui est à l'intérieur d'un enfant en fait par cette musique.
Oui.
Et tu disais aussi que ça te venait de ton père, que c'est une clé qui t'a donnée paradoxalement, etc. Ou que ta mère est celle qui t'a mise la première sur une chaise de piano. Mais moi, j'ai envie de croire, et j'en suis sûre, que c'est en fait c'est toi, c'est juste toi, quoi. C'est la puissance de la résilience, en fait. C'est cette capacité à exploiter toutes les ressources magnifiques et lumineuses pour transformer les horreurs que l'on peut vivre. Elles sont en toi, quoi. Donc, tu as vu chez ton père la magie de la musique, il te l'a transmise dans, on va dire, peut-être génétiquement. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas, si ça existe, mais voilà. Et toi, tu as su utiliser ça pour vivre vraiment, vivre au-delà de la survie finalement, quelque part, de chaque
Oui, tu as
jour.
raison. Tu as raison. C'est vrai que c'est un patrimoine qu'on m'a transmis, soit par acquisition, soit de manière innée. Mais là où tu as raison, c'est que j'aurais très bien pu l'avoir sans forcément en faire grand-chose.
C'est ça.
Et c'est vrai que on m'a donné la pelote de laine et les aiguilles et j'ai su coudre. Et ça, c'est vrai que je ne peux pas t'expliquer d'où ça me vient. Je pense que ça me plaisait. En fait, tout simplement, il y a eu un amour, un attrait pour ça. Et j'ai eu cette envie. C'est vrai que c'est un peu inexplicable, mais comme tu dis, ça fait peut-être aussi partie de la magie de la résilience, d'avoir su trouver cette ressource, de la prendre et de se dire j'en fais quelque chose. En tout cas, j'ai voulu construire quelque chose. Il y a eu le MeToo, le mouvement MeToo qui s'est lancé. Et puis, bon, je me suis dit MeToo inceste. En fait, je me suis dit, mais t'as un sujet. C'est toi le sujet. C'est ta vie. C'est l'inceste. C'est voilà. Alors, c'est sûr qu'il faut avoir du courage pour se dire que on va le chanter. Parce que déjà, quand on propose une prestation musicale, on n'est pas sûr que ça plaise tant musicalement qu'au niveau des paroles. Mais alors, en plus, prendre, en tout cas, prendre le parti pris, prendre le parti de chanter des chansons chantant ma résilience ou mon parcours de reconstruction, c'était un petit peu osé. Mais je t'avoue qu'encore une fois, l'envie de le faire a dépassé tous les préjugés que je pouvais avoir. Et naturellement, j'ai rédigé mes chansons. Et puis, c'est vrai que dans mes chansons, je me suis rendu compte que... Donc, j'en ai filtré quelques-unes pour en retenir que cinq. Et je me suis rendu compte, mais c'est ça mon chemin de résilience. Finalement, dans mes chansons, quand j'écoute, on a tout. On a l'évolution des émotions, l'évolution de l'enfant à l'adulte et l'évolution de ma résilience. Donc, c'est ça que je chante. Et c'est comme ça que mon EP Résilience est né, avec cinq chansons qui... du plus sombre à la lumière, de la honte au courage, voilà, c'est finalement construit. Et ouais, j'en suis fière aujourd'hui parce que, je m'étais dit, une de mes plus belles réussites, ce serait que c'était pas de faire 1 million d'écoutes sur Spotify ou autre, non, c'était que, à l'écoute de mon album, des gens qui ont potentiellement connu l'inceste puissent m'écrire et me dire, waouh, je me suis reconnue dans tes chansons. Ou alors me confier qu'ils ont connu l'inceste et qu'ils en ont pris conscience il y a peu. Et c'est arrivé, et pas qu'une fois. Et ça, pour moi, ça a été la plus belle réussite de mon album. Des fois, j'ai des amis qui me disent « Bon alors, ton premier EP, ça a donné ce que tu voulais. » Et je sais que quand ils sous-entendent ça, quand ils me demandent ça, ça sous-entend une réussite de performance. Ce qui est normal, parce que financièrement, j'ai investi beaucoup d'argent, parce que voilà, et de travail, et d'énergie, et de temps, enfin, tout ce que tu veux. Mais en fait, moi, je leur réponds oui, mes objectifs sont atteints. Mais ce n'est pas des objectifs de rentabilité de mon entreprise. Ouais. Oui, c'est un objectif de...
Humain.
Ouais, humain, tout à fait. Et j'ai tellement d'empathie, en fait, envers mes frères et sœurs de vécu que quand je lis leurs témoignages ou quand je lis même encore aujourd'hui leurs commentaires sous certaines publications... parce qu'ils se retrouvent dans certaines choses que je dénonce ou que je libère, ouais, ça me touche énormément. Je me dis que là, j'ai tout gagné. Donc voilà.
Oui, bravo.
C'est important. C'est important qu'on soit solidaires entre nous. Et tu vois, j'allais dire l'année prochaine, on y est déjà, 2023. 2023, j'ai encore plein de surprises qui arrivent. Mmh. Et voilà, j'ai fait la résilience. J'ai montré ma résilience à moi. Ok, maintenant c'est bon, enfin je veux dire maintenant c'était pour me présenter aussi, pour dire eh oh, je suis là, voilà mon histoire, est-ce que tu es concerné toi aussi, et qu'est-ce qu'on fait, et voilà. Et tu vois, maintenant ça va être la résilience, mais tous ensemble. Dire maintenant, et au travers ce que je prépare pour l'année, là, ce qui va sortir cette année, ça va être ça. Ça va être travaillons la résilience ensemble. Comment est-ce que tous, collectivement et individuellement, on peut finalement prendre en compte, tenir compte de tous ces aspects, se rendre compte qu'il y a quand même un fléau qu'il faut lutter contre. Voilà, comment faire pour que tous ensemble, finalement, on soit unis et solidaires face à l'inceste, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne se sentent pas concernés. Ce qui est terrible, parce que quand tu regardes les stats, il est très peu probable de ne pas connaître quelqu'un qui a connu l'inceste dans son cercle proche. C'est, oui.
Ou alors tu vis tout seul.
Ou alors tu vis tout seul, voilà, c'est ça. Et là, c'est... des fois, alors ça me fait rire, c'est un rire de protection, hein, mais des fois, quand j'entends certaines personnes de mon entourage m'affirmer avec assurance que... Et sans aucune méchanceté, hein, mais en tout cas avec une assurance qui est plus une assurance d'ignorance finalement, que non, mais ce que j'ai vécu, c'est vrai que c'est horrible, mais heureusement, ça reste quelque chose d'assez, d'assez ponctuel et atypique, oui, voilà. Mmh. J'ai toujours ce sourire un peu de protection de l'autre, parce que quand j'entends ça, je me rends compte qu'en fait la personne n'est pas prête à accueillir l'information selon laquelle non, ce n'est pas si marginal que ça.
Oui, et au-delà de pas prête, c'est vrai, et effectivement, souvent c'est parce qu'on n'est pas prêt, peut-être même qu'on est concerné directement, mais qu'il y a encore ce champ de déni qui nous protège de cela. Et c'est aussi à nous, et c'est ce que tu fais toi avec ton travail d'artiste, c'est à nous de taper du poing et de mettre ça à la une des médias davantage, encore plus, plutôt que le foot. Bien sûr, c'est pas aussi drôle, mais c'est important parce que c'est justement important, ça, c'est essentiel.
Oui. En fait, ce qui me gêne aujourd'hui dans les médias, que tu l'as très bien dit, c'est pas tant qu'on parle du foot, il faut en parler. C'est un loisir qui, en plus, est très aimé du peuple français. Moi, la première, il n'y a pas de souci. Mais ne desservons pas, enfin, je veux dire, ne minimisons pas, ne banalisons pas les autres sujets qui mériteraient tout autant leur place, parce qu'il faut un temps pour les loisirs, il faut un temps pour la politique, un temps pour... tu vois ce que je veux dire? Et en fait, là, aujourd'hui, ce que moi, je trouve pas normal, c'est qu'en fait, au prétexte que... ce n'est pas attrayant, au prétexte que ce n'est pas marketing, en termes de publicité, c'est pas très... voilà. Et bien en fait, on n'en parle pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur l'inceste ou les violences sexuelles, bah... ah ça... t'as vu, hein, ça... ça ne veut pas. Hein. C'est difficile.
C'est difficile, ouais.
Mais parce que ça demande du courage, et ça, c'est vrai que c'est compliqué. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, la société fait que, notre fonctionnement fait que, les victimes... avec tout ce qu'elles ont traversé, doivent encore elles-mêmes trouver le courage d'en parler pour qu'on les aide. Ça veut dire qu'encore une fois, le courage doit venir de nous, alors qu'on nous a déjà bien exploités, qu'on est déjà bien lessivés, qu'on est déjà mis plus bactère par tout notre vécu. Et bah, quand bien même, c'est encore à nous de trouver le courage d'eux. Alors, il faut bien que les gens comprennent que, oui, certaines l'ont, après un long voyage, après un long chemin de résilience, et que ce chemin de résilience ne veut pas dire qu'après, c'est le soleil et c'est fini. Moi-même, encore aujourd'hui, hein, j'ai chanté ma résilience. Faut pas croire que tous les jours sont magnifiques et que tout va bien. J'ai encore aujourd'hui plein de séquelles sur plein d'aspects de ma vie. Alors effectivement que j'arrive à, c'est pas masqué parce qu'on masque pas, puis c'est pas mon intérêt, mais en tout cas que avec lesquels j'arrive à jongler et finalement à mener quand même une vie parfaitement normale. J'aime pas trop cet adjectif, mais tu me comprends. Mais ce qui est fou, c'est que voilà, je suis convaincue que demain, si on arrive à voilà, détabouiser, je sais pas si ça se dit, mais je suis persuadée que si en fait l'effort devient collectif et n'est pas porté uniquement par les victimes ou les co-victimes, hein, parce que des fois on voit, hein, ce sont des personnes qui n'ont pas subi directement, mais dont le frère, la sœur ou un proche a subi, et donc du coup la personne s'engage et se sent pleinement prête à finalement mener ce combat par amour ou affection pour l'autre. Mais en fait, aujourd'hui, ça doit venir de tous. Parce que les enfants, c'est notre avenir, parce que les enfants, c'est nos enfants. Et puis que les violences sexuelles, elles n'ont pas leur place, tout simplement.
Alors justement, oui, justement par rapport à ce que tu partages sur les choses qui sont encore difficiles pour toi dans ton quotidien, oui. Est-ce que il y a des choses, bah, puisque le podcast quand même s'appelle Maman au-delà de l'inceste, est-ce que oui. Toi, dans ton quotidien de maman, tu en vis encore? Ben, en fait, ta fille, elle est toute jeune en plus, hein. C'est tout jeune, oui. Tu es une toute jeune maman. Explique-nous un peu
oui.
D'ailleurs.
Ma petite puce, elle a 7 mois dans quelques jours. Donc effectivement, je suis maman depuis très peu de temps. C'est vrai que je n'étais pas prête à devenir maman avant moi-même d'être solidement ancrée dans ma vie que je me suis réappropriée. C'était hyper important pour moi d'être bien moi-même avant de m'engager dans ce rôle de maman. J'y suis assez bien arrivée. Et ça, c'est une fierté personnelle parce que l'horloge biologique, aujourd'hui, est un facteur de pression sociale pour toutes les femmes désireuses d'être maman. Que
quel
la société...
d'ailleurs,
j'ai 32 ans. Ouais. J'ai 32 ans. Donc c'est vrai que voilà, une fois les 30 ans passés, hein, même si j'aime pas me mettre cette alerte, voilà, au-dessus de la tête, mais il faut reconnaître que en tout cas pour ma part, ça en a été une quand même. J'ai voulu, tu vois, encore une fois, rapidement être maman, et en même temps, je me sentais pas capable de l'être tant que j'avais pas résolu mes problèmes intérieurs. Mm-hmm. Donc un challenge supplémentaire qui se rajoute à la pression de l'horloge biologique. Heureusement pour moi, et comme je me connais aussi un petit peu, et je sais comment je gère mes émotions, comment je gère mon stress et mon anxiété, j'ai fait le nécessaire. Et voilà, j'ai pu devenir maman sereinement, sans anxiété relative, en tout cas pas liée à ça. Hein. C'est vrai que là, pour l'instant, les principales difficultés que je rencontre depuis l'arrivée de ma fille, c'est de revivre un peu en décalage des situations où finalement, en reviviscence, me remontent des souvenirs. Par exemple, son bain, le bain, le premier bain que je lui ai donné à la maison, ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce que c'est là que moi, j'ai été la première fois agressée sexuellement, en tout cas du plus loin que je me souvienne. C'est la première agression sexuelle dont je me souviens. Donc évidemment, quand on donne son bain à son enfant et qu'on est évidemment... à un moment, on est obligé de nettoyer aussi les parties intimes de son bébé. Ce qui est d'ailleurs un geste tout à fait normal. Je veux dire, on ne va pas prendre le risque qu'il y ait une infection, qu'il y ait quoi que ce soit. Mais d'un autre côté, c'est un geste tout à fait normal, mais qui, moi, malheureusement, dans le cerveau de ma petite enfant intérieure, est resté un acte dans lequel j'ai peur et qu'il y a de l'anxiété et qu'a généré des choses anormales par la suite. Donc toute cette peur aujourd'hui, et c'est là que c'est important d'être bien ancré avec soi-même, c'est d'être capable de se dire « Oula, j'accueille ce qui se présente à moi, j'ai cette émotion, j'ai cette crainte, mais c'est important de savoir se rassurer soi-même et de se dire « Bon, respire, il ne faut pas hésiter aussi à déléguer dans ces moments-là. » Moi, je sais que mon mari, je lui dis « Est-ce que tu peux prendre le relais, s'il te plaît ?» Voilà, moi, je ne veux pas non plus que ma fille ressente tout ce que moi je peux avoir, parce que ça reste un bagage que je porte. Et malheureusement, enfin, je veux dire, il faut l'accepter. Ça aussi, à un moment, ça, c'est hyper important de l'accepter. Je me rends compte aussi, moi, depuis que je l'ai accepté, je vis beaucoup mieux, parce que dès lors qu'une émotion se présente à moi, qu'elle soit une émotion d'anxiété, de peur, même de joie, hein, des fois, les extrêmes, encore une fois, ne sont pas bons. Et en tout cas, ces émotions, il faut savoir les accueillir pour justement les comprendre et les faire redescendre à un niveau acceptable, en fait, d'expression. Donc voilà, et tu vois, je suis contente d'avoir fait ce chemin-là, parce que si je ne l'aurais pas fait avant de tomber enceinte, je pense que je me serais pris en pleine face tout ça. Et je suis qu'au début du chemin, parce que là, c'est un bain, mais je n'ose imaginer quand elle va grandir, que son corps va se sexualiser, que je vais avoir d'autres craintes. Voilà, Moi, je sais qu'en tout cas, je suis un peu sur le qui-vive, sur des situations, même sur des situations intrafamiliales où on n'a pas envie d'y penser, parce que j'adore ma famille, j'adore ma belle famille. Mais j'ai envie de dire, SOS, comprenez-moi. Oui, je n'ai pas grandi dans un monde où tout le monde, il est beau, il est gentil. Donc en fait, excusez-moi, ça peut peut-être vous choquer et vous surprendre. Mais comprenez-moi. Et d'ailleurs, si vous n'avez rien à vous reprocher et que vous avez un minimum d'empathie, vous pourriez le comprendre. C'est-à-dire qu'il y a un moment où je sais qu'aujourd'hui, je sais filtrer, et que si demain, des gens dans ma famille sont surpris de m'entendre dire ça, c'est que j'ai touché quelque chose dans leur ego qui les dérange. Parce que fondamentalement, quand on reçoit ce genre de crainte ou de peur, à mon sens... faut plus apporter de l'empathie et de la compréhension à la personne plutôt que de passer en force. Enfin, je pense que c'est la meilleure solution à avoir, enfin, en tout cas, la meilleure attitude à adopter.
Moi, je trouve quand même qu'au contraire, moi aussi, j'ai eu à faire avec ce côté hyper protecteur aussi, surtout au début, parce que maintenant, mes enfants, la plus grande, mon aînée, elle a 11 ans et demi, donc il y a eu du chemin. Mais quand j'étais toute jeune maman, au tout début, c'est vrai que j'étais peut-être en décalage par rapport à ce qu'on prône aujourd'hui. Les enfants, on peut les laisser... et même aujourd'hui, hein, c'est difficile pour moi. J'ai eu un moment d'aller-retour, d'ailleurs, dans mes prises de décision. Mais aujourd'hui, mes enfants, je ne les laisse pas aller dormir chez les copains et copines. Et c'est un choix. Et pour moi, c'est pas un choix d'hystérique. C'est un choix conscient. Parce que je sais... ce que d'autres ne veulent pas voir, d'autres parents ne veulent pas voir. Et sans vouloir diaboliser le monde entier, j'essaye de prévenir davantage et d'expliquer à mes enfants par des lectures, etc. Et aussi leur expliquer pourquoi pour moi c'est si difficile, sans non plus rentrer dans le détail de mon histoire pour ne pas leur faire peser mes propres traumas, mais leur faire comprendre pourquoi ça peut être difficile pour moi de les laisser dans un extérieur qui peut me sembler potentiellement dangereux quand même. Et même au niveau de la famille, parce que c'est ça aussi, on ne sait pas du tout, il y a 80% des violences qui sont faites au sein de la famille. Donc mais effectivement, je le vis encore, me confronter au regard extérieur même de ma famille proche, qui dit mais enfin, tu te prends la tête pour des choses, même mon conjoint, hein, qui ne comprenait pas et qui comprend de plus en plus. Mais enfin, on ne va pas se prendre la tête, on ne va pas se méfier de tout le monde, mais si, si, on doit se méfier de tout le monde sans être dans la psychose. Tout le monde, malheureusement, c'était mon père, c'était ton père, c'est voilà, c'est des gens qui sont censés prendre soin de nous, nous protéger. Donc, c'est compliqué de pouvoir effectivement rester ouverte, leur donner de l'autonomie, mais aussi garder cette vigilance. Et ce que je voulais dire, c'est que quelque part, c'est aussi notre force. Quand on n'est plus dans le déni, parce que qu'est-ce qui fait qu'une mère peut ouvrir les yeux ou rester dans le déni? C'est aussi son chemin à elle. Mais peut-être que le fait d'avoir vécu quelque chose, quand on a fait un beau chemin de résilience, enfin, quand on travaille en tout cas et qu'on a conscience surtout, bah, c'est de pouvoir protéger ses enfants de façon adéquate. Alors que d'autre part, quand on n'a pas vécu cela, on a eu la chance d'éviter tout cela, super, ou quand on est encore dans le déni, on va au contraire être beaucoup plus. C'est pas laxiste le mot, c'est aveugle finalement. Sais pas ce que tu penses de
Tout
ça.
à fait. Oui, tout à fait. Non, mais alors, c'est vrai que là-dessus, j'ai la chance d'avoir un conjoint très à l'écoute et très, très ouvert, qui du coup ne minimise pas mes peurs et mon anxiété relative par rapport à ces situations. Qui d'ailleurs, pour l'instant, je pense que toi, tu as plus de recul que moi parce que tes enfants sont plus grands et du coup, tu as été confronté à des situations où tu t'es posé la question. Moi, aujourd'hui, ma petite puce, elle a bientôt 7 mois. Je ne suis pas encore confrontée à cette situation de est-ce que je laisse mon enfant dormir chez telle ou telle personne? Est-ce que quelqu'un de ma famille la garde pendant un temps donné? Ce qui fait que pour l'instant, je n'ai pas encore été confrontée. Néanmoins, ça ne m'empêche pas de me projeter et de visualiser comment je pourrais me ressentir. Et c'est vrai que, comme toi, de toute façon, je le vois bien déjà aujourd'hui, j'y pense. Donc, je n'ose imaginer quand j'y serai confrontée. C'est sûr que j'y penserai. Rien qu'en projection, là, j'y pense. C'est pas évident. Hein. C'est pas évident de trouver le juste milieu entre leur assurer quand même une liberté de mouvement, de joie aussi, parce que c'est super cool les pyjamas parties, c'est super cool de dormir chez papy mamie. C'est aussi un moment sans les parents. Et pour un enfant, c'est important aussi des fois d'être sans les parents et de pouvoir. Bah, tu sais, quand on n'a pas nos parents, en tout cas, bon, moi, avec l'enfance que j'ai eue, je ne suis pas un modèle, mais en tout cas, moi, quand je n'avais pas mes parents, j'étais contente. Mais la plupart des enfants aiment avoir ce petit sentiment de semi-liberté. En tout cas, on leur donne l'impression qu'ils sont un petit peu plus libres parce que souvent, c'est l'absence des parents est liée à, on va dire, un peu plus de lâcher prise. Paradoxalement, nous, le faire en ayant toute conscience que le loup peut être partout, oui, c'est dur. Ça va être un gros challenge, hein. Même pour moi. Bah, je pense que c'en est un aussi pour toi un petit peu, même si voilà, toi, tu as, comment dire, statué aussi que c'était pas OK et que c'était une crainte. Moi, je ne sais pas encore quelle décision je prendrai. Est-ce qu'elle sera similaire à la tienne? Est-ce que. Alors, ce qui est sûr, je ne m'imagine pas tout lâcher. Tu vois, en mode, oh oui, faites ce que vous voulez. Je pense que déjà, c'est incohérent avec ma personnalité, en tout cas l'actuelle. Je serais trop méfiante. Et puis, je pense que quand on a subi des traumatismes tels que les nôtres, c'est trop facile de venir nous dire non, mais c'est bon, on se prend trop la tête. Bah écoute, visiblement, il y en a qui ne s'apprennent pas assez. Enfin,
Ça, c'est même cruel, j'aurais presque tendance à dire, de
Ouais,
dire tu te prends trop la... quand
c'est.
tu sais, parce que
Quand tu sais.
des fois les gens ne savent pas notre histoire, mais quand on le
Oui,
sait.
quand on le sait, j'ai envie de dire, voilà, enfin, il y a un moment, et ça, mais ça prouve, moi, je prends beaucoup de recul maintenant sur, tu vois, ces paroles-là, j'aime bien l'adage qui dit, à défaut de pouvoir changer les autres, change-toi toi-même, et ça, je suis assez d'accord, parce que, alors, changer soi-même, pas personnellement, mais tu vois, là, quand on entend un point de vue qui est exprimé comme ça, qu'on pourrait presque prendre comme un jugement sur notre personne, j'essaie vraiment de pas absorber la méchanceté ou le jugement de ce message, mais vraiment, moi, de l'intégrer dans mon esprit différemment, en me focusant sur le fait que, bon, la personne, elle dit pas ça méchamment, mais en fait, elle aimerait que je gagne en lâcher prise et que je gagne finalement en légèreté et que l'anxiété me ronge un petit peu moins. Là où, par contre, il est important, mais c'est ce que je te disais, c'est-à-dire que oui, peut-être que moi, je me la prends trop, toi, tu ne te la prends pas assez. Ça, c'est aussi important de savoir remettre aussi la personne dans un positionnement où il est important qu'elle prenne aussi ses responsabilités et qu'on peut passer notre temps à s'envoyer en ping-pong des reproches de tu devrais faire plus, tu devrais faire moins, tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça. Peut-être, certainement. Et probablement qu'effectivement, avec tout ce qu'on a vécu, on est un peu plus que, mais pas trop. J'aime pas, il y a une différence entre plus et trop. Trop, il y a un jugement. Plus, bah, c'est plus à la norme. Effectivement, par rapport à la norme, oui, fondamentalement, je pense qu'avec ce qu'on a vécu, on est plus que quelqu'un qui a vécu, on va dire, des traumas ou des accidents de vie un peu plus légers. À l'inverse, celui qui n'a jamais rien connu, qui a une vie, et tant mieux pour cette personne-là d'ailleurs, hyper fluide, qui a connu aucun traumatisme, qui même en tant qu'enfant a eu une vie très sereine, faut aussi que cette personne-là se rende compte que elle aussi reste quelque part un extrême, tout comme nous on l'est de l'autre côté de la balance, mais que voilà. Donc ça c'est. Mais tu vois, toute cette prise de conscience, elle viendra alimenter. Enfin, elle vient. Et c'est pour ça que je travaille là-dessus, mais c'est que cette prise de conscience doit être concerne tout le monde. Concerne les victimes qui doivent effectivement ne plus hésiter à parler. Parce que plus on sera nombreux aussi, plus on sera entendu, crédible. Enfin, et puis je pense qu'on arrivera à faire que les gens se rendent compte d'eux. Les gens qui sont un peu en position, voilà, bah, peut-être se sentir un petit peu plus mobilisés et concernés. Et puis alors ceux qui, visiblement, surfaient complètement sur ces sujets-là parce qu'eux n'ont jamais connu un seul problème dans leur vie. Tout est un peu caricaturé, hein, mais tu comprends ce que je veux dire. Peut-être aussi se prendre un peu une claque et se dire « Oula, j'ai eu vachement de la chance. Moi, je suis sur un petit nuage depuis tout ce temps. » Quand je baisse la tête et que je regarde en bas, en fait, il n'y a rien qui va. Bon, moi, je suis visiblement assez ancrée puisque je n'ai pas eu de trauma. Je suis assez bien. Peut-être que je peux les aider, ces gens-là. Enfin, tu sais, c'est bête, mais j'aime à penser aussi que peut-être que aussi, enfin, chacun a sa part du travail à faire. Parce que les gens qui aujourd'hui ne se sentent pas concernés, peut-être, probablement, qu'ils auront des enfants un jour, ou même s'ils ne veulent pas d'enfants, ils ne sont pas seuls, ces gens-là. Ils aiment bien d'autres personnes. Qui peut-être elles sont concernées. Donc je veux dire, ça concerne tout le monde. Et en fait, l'inceste, finalement, nous touche tous d'une façon ou d'une autre, de manière plus ou moins proche. Donc je ne vois pas. Je vois pas l'intérêt de rester immobile, et encore moins le désintérêt d'être actif. Donc soyons solidaires. Et je pense que si on arrive demain aussi à faire en sorte que des personnes qui ne sont pas victimes directes portent le sujet, bah. On aura bien avancé.
Ouais, c'est vraiment une question d'information. Ouais,
Ouais. Sortir de l'ignorance, les gens.
C'est ça.
Pour l'instant, on ne peut pas trop leur reprocher aussi. Hein. C'est un sujet délicat. C'est normal. C'est un problème qui embête tout le monde. Ça, clairement, Tu sais, il y avait une étude l'autre jour qui paraissait, qui disait, je ne sais pas... Enfin, du coup, on se pose la question, on voit le nombre de victimes, mais du coup, combien d'agresseurs? Bon, c'est parce qu'attention, hein, un agresseur, ça peut être plusieurs victimes. Le nombre de victimes aujourd'hui, il y a l'enquête de la Civis là qui tient les statistiques à jour, c'est assez affolant. On se dit quand on voit que là c'est un enfant sur trois par classe ou trois enfants par classe, je sais plus.
Deux à trois enfants par classe de CM2 trois, par exemple, si on pense à une classe de 30 élèves en moyenne, c'est ça, deux à trois enfants par classe.
Oui, mais
c'est qu'une moyenne et officielle parce que.
Oui, fondée déjà sur les paroles des victimes qui ont parlé aujourd'hui. Oui. Enfin, donc, déjà, c'est très restrictif parce qu'il y en a beaucoup qui savent mais ne portent pas plainte.
Oui. Ceux qui ne savent pas parce qu'ils ont oublié aussi. Enfin, oublié. Il y a l'amnésie traumatique.
Voilà. Enfin, donc, en fait, ces stats-là sont déjà énormes alors qu'elles sont sur la base de personnes victimes qui ont parlé. Et ça, il faut bien comprendre que victimes qui ont parlé, c'est... Parler, c'est déjà une première étape. C'est pour ça aussi que je veux me passer. C'est la première étape, donc j'accorde j'accorde du temps à cette cause parce que déjà je veux vraiment lutter contre ce fléau et puis je suis profondément convaincue que plus la parole se libérera, plus les choses avanceront, puisque c'est le socle en fait de cet édifice-là. Les agresseurs aujourd'hui. Arrive à boucler la boucle, en tout cas ce cercle vicieux, en garantissant le silence des victimes. Par la peur, par la domination, par le chantage, par la manipulation. Dans le cadre de l'inceste, pour toutes ces raisons, plus l'affectif, plus la tension de la sphère familiale et du « qu'en dira-t-on ?». Donc tu vois, le challenge à relever sur la libération de la parole, il est important parce que dès lors qu'on arrive à faire sauter ce levier-là, on met un premier pied à l'étrier et on avance. En tout cas, la victime déjà, on redescend hein, quand on se sent moins seul. Pour ma part, moi, je sais que quand j'en ai parlé, je parle pas de quand je dis parler, c'est pas porter plainte forcément. Hein. Je dis parler, en avoir parlé à mon entourage. J'en ai parlé à mon entourage avant de porter plainte. Mais je, c'est marrant, hein, c'est marrant comment on se sent soulagé. Moi, je, parce qu'en fait, c'est un secret qui était porté depuis tellement d'années. Tu te rends compte, 22, 23 ans. Alors 22, 23 ans. Faut que j'enlève, on m'a pas agressé à zéro année, donc voilà. Mais en tout cas, les 20 ans, en gardant ce silence-là, c'est
ouais,
c'est énorme. Et c'est vrai que pour ma part, ça m'avait fait un bien fou. C'est d'autres problèmes après. C'est d'autres problèmes.
Mais c'est ça. C'est vrai que mais
du coup,
quand même. Ouais.
Voilà. Mais honnêtement, hein, qui sont rien pour ma part, c'était rien comparé à ce que je subissais avant, parce que le silence est pesant, oppressant, il t'étouffe. Là, quelque part, oui, c'est d'autres problèmes. Et du coup, ça fait du bien aussi au cerveau d'avoir d'autres problèmes. Tu sais, quand tu bêtes toujours sur le même problème, là, d'en avoir d'autres, quelque part, c'est une autre plasticité cérébrale, d'autres mécanismes qui finalement te reposent du problème initial que tu avais, parce que c'est autre chose.
Oui. Après, c'est vrai que c'est important de prendre en compte quand même que c'est pas si facile. C'est pour ça que voilà, ça demande du travail, mais c'est tellement difficile de pouvoir s'autoriser à libérer sa parole. Et ne serait-ce que concrètement, si tu es encore dans une situation d'emprise, si tes parents ou si enfin, je veux dire, l'agresseur, les agresseurs, l'agresseuse, je sais pas, il fait partie encore de ta sphère familiale, dans ton quotidien, c'est compliqué.
Tout
Donc,
à fait.
quel est toi? Tu disais que dans ce qui va se passer pour 2023, tu avais des projets vraiment de résilience en commun, de libération de la parole en commun. Est-ce que tu veux nous dire un peu quelle forme tu souhaites mettre en place pour que ça se fasse comme ça, par exemple? C'est musicalement, tu veux dire?
Donc effectivement, concrètement, ça va se transformer surtout par des actions donc musicales, où j'ai des singles de prévus très percutants par les titres. J'en dévoile pas plus parce que je suis
Oui,
obligée
bien
de laisser un
sûr.
petit peu de suspense pour ma promo. Mais auparavant, les chansons parlaient de moi. Là, maintenant, dans mes textes, je vais plutôt chercher l'autre. Bien, voilà. Quelle prise de position prends-tu? Quel rôle as-tu à jouer, toi, dans tout ça, dans ce que je dénonce? Où es-tu? Que fais-tu? Et ça te dit de nous rejoindre, du coup, pour combattre ça? Qu'en penses-tu? Voilà. Ou alors venir avec des chiffres ou des intonations de voix, tu sais, musicalement, on peut faire passer plein de messages. Et finalement, venir un petit peu poser la situation pour qu'il y ait une prise de conscience. Et ce que j'aime bien au travers de la musique, c'est que la musique, en général, ça rentre dans la tête. Ce qui fait que si les messages, en tout cas si j'arrive à bien faire mon travail, et à finalement faire une musique assez entraînante, avec des messages et des paroles qui, du coup, restent dans la tête, bah, tu sais, c'est comme les enfants qui apprennent les tables de multiplication en chanson. Tu les retrouves plus facilement. Ça va devenir des mécanismes qui s'intègrent un petit peu. Et finalement, en chanson, j'aurais appris quelque chose. Enfin, c'est un petit peu ça que je veux aussi que les gens retiennent. Voilà, en tout cas, je veux aller chercher l'autre pour aller chercher la prise de conscience et chercher surtout la responsabilité, finalement. Donc, ça va être des actions musicales. En 2022, j'ai créé le premier collectif Nous Toutes de mon département. Donc, je suis dans le Loir-et-Cher, le 41. Et donc Nous Toutes, hein, c'est un collectif militant alors, contre les violences sexuelles, sexistes et toutes les violences de genre. Donc je me suis complètement sentie à l'aise avec l'idée de monter ce collectif parce que bah, j'adhère en fait au message qui est porté par ce collectif national qui est ensuite redirigé, c'est un collectif national qui est redispatché après par des antennes régionales ou départementales. Donc évidemment, je vais aussi redoubler d'efforts dans toutes les actions menées au sein de ce dispositif. Donc il est plus un dispositif militant et d'accompagnement des victimes. Voilà. Accompagnement plus dans l'écoute et aussi le fait de savoir rediriger les personnes vers... Ça peut être des thérapeutes ou vers des organismes, vers voilà, des lieux vers lesquels ils peuvent trouver de l'aide, quelle qu'elle soit, thérapeutique, médicale, judiciaire. Voilà. Voilà. Et puis j'ai d'autres petites surprises, mais que je réserve
Bien sûr.
pour ma page. Mais voilà, en tout cas, tu vois, j'ai quand même de beaux projets en 2023 qui ont en commun cette envie d'aller vers l'autre. Voilà, 2022, j'ai posé les bases, j'ai parlé de moi. Alors évidemment, je vais continuer à parler de moi parce qu'il faut que les gens apprennent à me connaître, il faut que mon parcours aussi soit connu pour, je pense, peut-être gagner en légitimité, en crédibilité. L'interview avec Thibaut InShape et toi appuiera aussi un petit peu cette prise de position et cette envie en fait d'aller creuser en tout cas le sujet vers les autres. Et voilà, 2023, ça sera vraiment aller chercher la responsabilité collective.
Magnifique.
Voilà.
J'aime beaucoup cette idée de la musique qui vient en fait engrammer par cette. Effectivement, ça tombe dans la tête. Alors, des fois, on se dit, oh, ça m'énerve, ça me traîne dans la tête cette musique, je ne peux pas m'en sortir. Mais c'est magique ce pouvoir-là. Quand tu
Oui.
viens faire passer des messages à bon escient qui sont vraiment là pour le bien-être et la transformation collective, c'est vraiment formidable. Et je trouve que c'est très beau parce que ça détourne ce que nous-mêmes avons subi dans la maltraitance psychologique et physique, cette ritournelle de t'es mauvais, qui s'est ancrée à l'intérieur de nous. C'est venu comme une petite musique à l'intérieur de notre tête, notre cœur, de toutes nos neurones, toutes nos cellules, qu'on est mauvais, qu'on doit avoir honte, qu'on doit se sentir coupable. Et toi, avec la musique, c'est ce que j'ai compris, tu veux. Et c'est ce que j'ai ressenti aussi dans le premier EP et tous les morceaux que j'ai pu écouter. Voilà, transformer, aller donner un message vraiment puissant et positif de résilience de qui je suis. Et puis là, j'ai hâte de découvrir ce que ça va donner pour le collectif et cet appel à prendre conscience et ses responsabilités en tant que citoyen. Parce que c'est, comme on l'a dit,
Exactement.
en tant que citoyen, en tant qu'être humain, on est tous concernés par ça.
Exactement. Et c'est vrai que tu vois, j'ai vécu beaucoup de violence, beaucoup de maltraitance. Voilà, on l'a évoqué. Et aujourd'hui, c'est vrai que je veux complètement aller à contre-courant de tout ça. C'est-à-dire que, et pourtant, je sais que profondément, des fois, j'ai des restes. Parce que, enfin, quand on voit des choses pendant autant d'années, quand on voit de la gestuelle, quand on voit voilà, des choses, des fois, on peut être. On a encore de la violence en nous, mais c'est malheureux, c'est une violence qui a été acquise parce que trop subie, parce que trop vue, parce que voilà. Et c'est vrai que. C'est vrai que enfin, moi, la première, j'ai dû lutter pendant plusieurs années contre toute cette violence, qu'elle soit. Alors, moi, c'était plutôt verbal, heureusement, pas si fréquemment que ça physique, en tout cas pas vers les autres ou très peu de fois. Mais c'était plutôt verbal ou physique envers moi-même ou voilà, avoir envie de tout casser, etc. Et j'ai toujours. Alors aujourd'hui, je suis beaucoup plus apaisée, évidemment, il m'a fallu du temps, hein, tu vois, c'est 10 ans, hein, chemin de résilience, c'est à la fois énorme comme pas si long sur une vie. En tout cas, ça valait le coup. Mais je suis aujourd'hui profondément convaincue qu'on gagnera plus en légitimité à faire passer le message en douceur. Parce qu'aujourd'hui, ce sujet est trop tabou, ce sujet est trop. On nous. Tu sais, des fois, les enfants maltraités. Donc, on connaît l'inceste, on leur colle une étiquette un petit peu de bizarre, de voilà, ou de par exemple, si demain je suis violente, je casse tout, on va dire, ouais, mais bon, vu l'enfance qu'elle a eue, c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Non, c'est justement, non, ce n'est pas normal. Et moi, je vais vous montrer que je ne suis pas que ça. Et que oui, je ne suis pas en guerre avec moi-même sur d'ailleurs ces sujets-là. Je sais que j'ai ça en moi. Par contre, je suis adulte aujourd'hui et à moi de savoir. Gérer, on m'a pas appris petite à gérer mes émotions, mais moi je le fais en tant qu'adulte. En tout cas, j'essaye je donne tout ce que je peux pour le faire du mieux possible. Et aujourd'hui, je vais vous montrer que en musique, parce que c'est mon outil, parce que c'est mon art, une résilience est possible et de manière positive et constructive. J'ai horreur de la destruction, j'ai horreur de voilà, et je me dis bah prenons à contre-courant complètement le sujet. Et tu vois, je me dis si demain des gens chantent certains de mes singles alors que ça parle de l'inceste et de sujets. Voilà, bah enfin, c'est génial parce que je me dis, waouh, au final, le message est passé et qui l'eût cru? Quand on se dit, on va parler de l'inceste, on voit déjà le truc chiant, déprimant. Et je me dis, ok, c'est chiant et déprimant. C'est vrai que c'est chiant et déprimant, hein, clairement. Enfin, l'inceste, c'est pas du tout vendeur. Enfin, personne n'a envie de. Mais si c'est en musique et qu'en plus tu as la chanson dans la tête, j'ai envie de dire, même quelqu'un qui voudrait ne pas. Qui voudrait lutter en mode non, mais non, je veux pas. Voilà. Et qu'au final, il a quand même l'air en tête ou que. Ça, c'est marrant. Tu te dis, bon, au final, non, mais ça va être un de mes objectifs. Et voilà, j'espère que mes chansons aussi vont résonner pour beaucoup de personnes. le plus possible, et pas que les victimes, justement, parce que c'était le challenge hein, de mon premier EP, mais que ça résonne pour les victimes, parce que quelqu'un de non-victime a peut-être plus de mal à se reconnaître dans ce que je chante, quand bien même, tu as remarqué, les paroles sont très universelles. Hein, c'est pas clair que je parle d'inceste, mais c'était volontaire, pour que les personnes puissent accueillir mes chansons aussi avec le plus d'ouverture d'esprit et sans préjugés. Quand après, on réécoute l'album avec cette lecture, c'est différent.
Oui, surtout quand on sait, quand on a
Oui,
vécu aussi, quand on est passé par
exactement.
là. On a chacun notre
Exactement.
histoire, mais ça résonne vraiment.
Exactement.
Et vraiment, j'aime beaucoup cette idée que l'inceste, malgré tout ce côté lugubre et macabre, vibre et soit lumineux finalement à travers de tes chansons et à travers d'autres formes d'art, ce serait merveilleux.
C'est l'objectif. Bah écoute, je... Ouais, c'est un objectif et c'est le challenge que je me lance pour 2023.
Merci beaucoup Anna, j'ai hâte de voir tout ça,
Merci
d'entendre et de
beaucoup.
chanter tes paroles.
Ah bah écoute, avec plaisir, j'ai hâte. De toute façon, tu seras une des premières au courant parce que je sais que tu me suis activement. Et encore merci à toi pour le temps que tu m'accordes, le temps de parole, le temps d'écoute et cette opportunité que tu me donnes à pouvoir m'exprimer encore une fois. Alors au travers ton média, mais c'est top et bravo aussi pour tout ce que tu fais. On a
Merci.
vraiment besoin de gens comme toi, vraiment, vraiment beaucoup.
Merci beaucoup, bravo à toi.
Merci beaucoup, Solange.
Merci d'avoir écouté ce podcast Maman au-delà de l'inceste. Si tu as aimé ce podcast et que tu souhaites soutenir ce programme, n'hésite pas à le faire savoir en mettant des pouces, des petites étoiles ou bien des cœurs en fonction de la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. Et n'hésite pas surtout à en parler autour de toi et à le partager. Car plus on parlera de ce sujet difficile de l'inceste avec luminosité et espoir, plus le tabou pourrait être brisé avec efficacité, plus nous pourrons protéger nos enfants et réhumaniser notre société. Je serai aussi ravie d'entendre ou de lire tes commentaires, tes retours, que tu pourras me faire passer par message privé ou bien en commentaire sous l'audio. Et si tu te sens l'âme, le cœur et l'envie de contribuer à enrichir ma voix en témoignant toi-même de ton parcours lumineux de maman au-delà de l'inceste, n'hésite pas à me contacter et je me ferai un immense plaisir de t'accueillir dans cette émission.